Bonjour Gilles.
Bonjour mon cher Jean-Sébastien, bonjour à Marie-France.
Bonjour Gilles.
Sujet mordant aujourd'hui, vous autres.
Oh, ça fait parler ça, puis les cyclistes, Gilles, deux sujets explosifs.
C'est des sujets d'été, parfait. Voilà.
Oui, il n'y a pas de doute. Les animaux, faisons tout ça sur le dos des animaux.
Oui. Ouais.
Vous voulez parler aujourd'hui de la valse des milliards.
Oui, il y a un mystère, j'aimerais que vous m'expliquiez, par exemple, où est-ce qu'on prend tous ces milliards par-ci, milliards par-là? 4 milliards et demi pour le pont Champlain, la facture n'est pas arrivée encore. Il y aura sûrement des surprises. On a oublié de vous charger ceci ou cela. 4 milliards pour la ligne bleue du métro à Montréal. À part les autres milliards à venir, on est en pleine campagne électorale. Vous allez me dire, ben, c'est la conséquence des économies, des serrements de ceinture, notamment du gouvernement Couillard. Mais il y a longtemps que l'épuisement de la carte de crédit avec ses surplus est atteint. Alors, où prenons-nous ces milliards? Et pendant ce temps-là, personne ne s'interroge sur, encore une fois, l'adoucissement de la dette. Mm-hmm. 280 milliards du côté du Québec, 700 à 800 milliards du côté d'Ottawa. Et entre-temps, pour nous étourdir, dans la fumée bleue, on voit que la légalisation du pot, qui endort le peuple, il n'y a pas de doute, ça ne dérange pas du tout. Trudeau devait arracher des milliards à la PEG avec tout ça, qu'il n'arrache pas, puisque la PEG organisée fait encore de meilleures affaires que le gouvernement avec la fumée bleue, bien qu'on a distribué généreusement des permis pour que des gars, des amis du parti, puissent distribuer la poudre ou la fumée bleue. Alors voilà notre société. Rien ne bouge, mais tout change et la valse des milliards continue.
Mais en même temps,
tôt ou tard, la bulle va péter.
Gilles, en homme d'expérience que vous êtes, là, y a-t-il un sujet moins sexy que de régler la dette pour un gouvernement? Vous souvenez-vous d'un gouvernement qui s'est fait élire en promettant de réduire la dette?
Non. Il y a eu quand même, peut-être qu'il aurait été battu lors d'une élection suivante. Il y a eu Lucien Bouchard qui parlait du sacrifice pour abaisser la dette de temps. Entendre-moi, on se souvient de ça, avec une rationalisation qui a été douloureuse. J'avais bien raison là-dessus. On n'a pas le droit de demander de là la démagogie politique au Québec, de nos politiciens qui font de la politique de rue dans les centres commerciaux en donnant des suçons aux petits bébés dans le carrosse de madame et ainsi obtenir son vote.
Oui, c'est meilleur pour l'électorat, ce Gilles, effectivement.
Voilà. Ça s'appelle l'endormitoire. On a remplacé ça par la fumée bleue.
On parle, Gilles, de religion et de sport qui ne vont pas ensemble. Vous voulez revenir sur cette histoire de hijab et la jeune femme qui s'est blessée sérieusement?
Exactement, c'est le deuxième cas. On se rappelle qu'en Ontario, il y a quoi, 5-6 ans, je pense, il y a une fille qui avait été carrément étouffée, elle, par son foulard, dans un événement sportif. Alors, la jeune femme, en tout cas, de Montréal, du secteur d'Anjou, se voit étranglé par son hijab religieux, moi je devrais dire politique, son père lui a peut-être dit de le porter, parce qu'avant ça, les jeunes ne voulaient pas suivre la mode du bonhomme. Alors, toujours est-il que lors d'une course de go-kart, alors son foulard religieux ou politique s'est coincé dans la roue d'un go-kart qu'elle pilotait sur un circuit du parc d'amusement à Anjou. Et ce qui est intéressant, faut rappeler que les jeunes responsables du PAC ont dit à la jeune femme à plusieurs reprises qu'il y avait peut-être des risques de conséquences à garder votre foulard, puisque vous faites des courses avec votre foulard religieux ou politique, dépendant à quel bord on penche. Alors, comme quoi, la religion n'a pas sa place dans les loisirs et les sports risqués, mais bien sûr, les Bouchards, les Taylor, les Julius Gray vont embarquer là-dedans pour venir défendre devant un tribunal de stupidité cette jeune femme contre le propriétaire du parc qui s'appelle Amédéo d'Anjou.
Mais c'est très malheureux comme histoire quand même, Gilles. On s'entend
que cette
jeune femme-là...
Il y a quand même un maudit message politique à retenir dans l'analyse de tout ça. Mais la jeune fille, quand même, n'est pas morte.
Heureusement. Et on va terminer, Gilles, en parlant du fédéral et de sa méconnaissance du français relativement au pont Champlain, de la signalisation qu'on devra refaire.
C'est incroyable, déjà une faute. Ça fait à peine 3 jours qu'il est inauguré, alors les oui. pancartes sont pas trop vieilles. Il y a personne à la rédaction qui a pu s'apercevoir de ça. Et ça démontre encore une fois comment le laxisme est institutionnalisé dans nos institutions où des jeunes arrivent sur le marché du travail, se disent toujours meilleurs que celui qui était là auparavant, ou celle, et en même temps dire une faute, c'est pas plus grave que ça.
Mais parce que là, c'est une faute en français, c'est une faute en anglais.
La francophonie, faut-il le rappeler, devrait avoir une politique de sévérité, ça n'existe pas, c'est un mot qui n'est pas de mise, avec une charte d'abus et de liberté dans lesquelles nous surnageons, nous nous noyons dans les libertés, devrait avoir une politique de rigueur, puisqu'il est officiellement bilingue. Avez-vous déjà entendu dans l'histoire du bilinguisme depuis 1969 que Trudeau a passé sa loi sur le bilinguisme officiel? Tout ça parce qu'il y avait un mouvement indépendantiste au Québec qui revendiquait le français. L'Ottawa s'est empressé de bilinguiser officiellement pour essayer de passer le sapin sous les pieds du Québec qui s'affirmait et adhère à la francophonie. Alors, si le Canada est un pays officiellement bilingue, avez-vous déjà vu le Canada faire une sortie publique pour dire il faudra que la langue la plus mal en point des deux langues officielles soit rigoureusement appliquée et promotionnée, si on veut accepter cette expression? Non. Alors, le laxisme au niveau de la rédaction, ça ne nous étonne pas, que ce soit au fédéral ou à Québec. On est à l'heure des clins d'œil avec des fautes et on trouve toutes sortes d'excuses pour toujours dire « bah, c'est pas si grave que ça ».
Mais c'est pas nouveau. En même temps, moi, je me souviens, il y a quelques mois, je sais pas si vous vous rappelez de ce dossier-là de Page Jaune qui avait fait imprimer son bottin à la ville de Latuc. 6000 exemplaires, Latuc avec un S à la fin.
Exactement.
C'était le grand titre.
Écoute, on parle de fautes répandues à milliers d'exemplaires. Il y a un fumeux de pipe qui a examiné le texte avant de l'imprimer, avant de se moncer le jeune qui se pense bien bon, là, qui a, le jeune ou la jeune qui avait rédigé. Personne, à quoi bon donner des titres de responsabilité à un patron au-dessus du gars ou de la fille qui a fait la faute? Et si cette personne-là dort au gaz ou est aussi ignorante que celui qui a écrit le texte?
Parce qu'il n'y a pas juste des jeunes qui font des fautes quand même. Ça, faut le dire. Hein?
Non. Mais on sait que maintenant, la jeunesse prend place en délogeant justement la génération d'hier.
La sagesse.
Alors, les diplômés de cégep, qui est souvent des institutions dans les limbes, on donne un diplôme assez aisément au cégep, c'est reconnu. Et avec notre école à 180 jours, on ne peut pas rivaliser en termes de qualité et de performance. On le voit par contre chez les immigrants qui arrivent d'écoles plus rigoureuses.
Oui.
Comme quoi, on ne sait pas qu'il y a des écoles plus rigoureuses dans le monde.
Merci beaucoup, Gilles.
Merci, Gilles.
Au plaisir, demain. À demain.
À demain.